Salut à tous, bienvenue sur ce troisième rendez-vous de notre thématique autour des prochaines élections municipales. Je vous ai concocté une émission un peu originale grâce à un film à la fois insolite et remarquable qui invite à réfléchir la politique autrement. Ce film, c'est Polo et les professionnels, un documentaire proche du cinéma expérimental réalisé par Suzelle Roche et que vous pourrez voir mardi 11 mars au Dakiling. Alors vous allez entendre des extraits du film, dont le personnage principal est Polo, qui est en quelque sorte le double de Robert-Paul Vigouroux, ancien maire de Marseille, qui a succédé à Gaston Defferre et est resté au pouvoir jusqu'en 1995. Dans cette émission, on va donc partir du film Polo et les professionnels pour s'interroger sur ce que sont le pouvoir, la politique, les habits du pouvoir, le charisme et la façon dont on accède à ce pouvoir politique, la façon dont on le garde et dont on le perd aussi. J'ai donc rencontré ceux qui ont participé à ce film, Robert Vigouroux et Pierre Carl, réalisateur de documentaires qui a prêté sa voix pour le film. Et puis je suis allée voir pour vous le politologue Bruno Etienne et Christian Poitevin, alias Julien Blaine, ce poète qui était délégué à la culture sous Vigouroux. Et pour commencer, la réalisatrice Suzelle Roche revient sur le titre de son film « Polo et les professionnels ».
Des extraits de ces textes que j'ai utilisés comme expression principale de Vigouroux, comme l'être réel et profond de Vigouroux, c'est-à-dire le Vigouroux le plus intime. Et donc en fait, c'est ça mon sujet, c'est pas tant Robert Vigouroux en tant que maire, ce qu'il a fait, ses réalisations, ce que j'ai vu dans son bouquin, c'est plus une réflexion sur cette fragilité qui est exprimée à partir de son souvenir et sa réalité dans un monde de professionnel. Parce que bien longtemps, il y a d'une part le poète, et puis d'autre part, il y a une espèce de dialogue technique, avec des difficultés à s'instaurer, comme la difficulté qu'il y a en fait dans l'espèce d'inconnu, la difficulté que la démocratie à l'instaurer un débat entre les citoyens et les hommes politiques. Donc, on dit que cette voix off qui essaie de questionner qui nous donne le poumon et qui raconte à la fois son histoire de façon qui a parlé avec une voix douce qui traînait en fait une question sensationnelle. Mais il y a cette voix et puis tout à côté on passait de Pierre qui enrichissait en fait un petit peu cette espèce
celle qui vient d'ici pourrait être celle de votre mémoire.
Vous, docteur Robert Paul Vigouroux, vous qui n'avez rien oublié de votre histoire, vous allez nous en raconter une autre, celle de Polo, votre créature, votre double.
Je suis né le 19-9-1919, à 19h dans le département 19, et je suis comptable de mon métier, et je travaille pour vivre, mais cela ne me plaît pas, et je cherche à m'évader. Alors, j'écris des poésies avant de disparaître.
Vous avez été chirurgien pendant de longues années. Votre spécialité ? Le cerveau. De cœur, vous êtes socialiste.
Pierre Carle, qui fait donc l'une des voix off du film, nous explique pourquoi il a apprécié le documentaire de Suzelle Roche, Polo et les professionnels.
L'état de M. Gaston Defer est considéré comme très critique par les médecins. Un second communiqué sera publié dans le courant de la matinée. Le pronostic est devenu encore plus réservé. Ce communiqué est signé des professeurs Serra Dimini, San Marco Jean-Louis, du docteur Guillermin et de moi-même.
Gaston Defer, maire de Marseille, député des Bouches-du-Rhône, est décédé ce jour, 7 mai 1986, à 11h15. Le décès a été constaté par messieurs les professeurs Vigourou, Ferradimini, San Marco et le docteur Pierre Guillemin. Ce bulletin est le dernier communiqué qui sera diffusé par la science publique.
Bonsoir. Depuis ce matin, Marseille a un nouveau maire, le 47e du nom. Il s'agit du professeur Robert Vigourou, le candidat officiel du Parti Socialiste.
1986. Vous voilà maire. Quelle surprise. Vous n'en revenez toujours pas.
Pourquoi vous ?
Le conseil municipal devait désigner parmi ses membres celui qui allait assurer l'intérim. Après tout, c'était peut-être mieux que ce soit vous, plutôt qu'un autre.
Peut-être, mais c'était surtout vous, pour en éviter un autre. Quelqu'un perçu comme trop ambitieux. Vous, vous étiez inconnu, donc vous êtes devenu maire.
C'est un pape de transition, précise la veuve à vos côtés. Les élus de gauche ont voté pour vous, comme convenu.
On vous garantit l'union sacrée des socialistes. Qui a parlé de politique ? Personne. Pour l'instant, il ne s'agit que de pouvoir.
Robert Vigourou devient donc maire. C'était effectivement le candidat officiel du Parti Socialiste, mais ce n'était pas celui que tout le monde attendait, comme l'explique Christian Poitevin.
Ce qui se passe à la succession des fers, c'est que la fédération du Parti Socialiste a deux dauphins, qui sont Michel Pezet et Philippe San Marco. L'un est devenu un godinesque et l'autre est devenu un aixois. C'est assez rigolo que les deux successeurs possibles de Marseille sont tous les deux partis sur des voies de garage, sur des voies différentes. L'un chez Godin et l'autre chez Aix-en-Provence. Ça, c'est pour la... Donc c'était entre ces deux que ça allait se jouer. Ça ne peut pas se jouer entre ces deux. Donc à ce moment-là, on prend un élu qui était un élu de Marseille. Il était élu dans la liste de Gaston Defer, Robert Vigourou. Il ne faut jamais oublier ça. Et en plus de quoi, c'est lui qui était en train d'essayer de sauver Defer après cet accident de mai 86. Donc il y avait une très très bonne raison, c'était qu'il était sur place, qu'il a rencontré à ce moment-là tous les gens qui sont venus au chevet de Gaston Defer, c'est-à-dire sa veuve, Edmond Charleroux, François Mitterrand, qui avait le voyage. Donc au contraire, on était dans un rapport très 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 politique. Et la succession impossible entre les deux dauphins qui ne pouvaient pas se supporter. Donc, comme toujours, depuis La Fontaine, on sait ça, quand on n'arrive pas à séparer ceux qui devraient prendre le pouvoir, on le donne à celui qui est le plus habilité à le prendre, qui est l'homme présent. Et cet homme présent, à ce moment-là, c'est Robert Vigourou. Et cet homme reçoit à la fois la caution politique, très politique, du président de la République, François Mitterrand, et de la veuve dont on connaît les capacités politiques, qui est Edmond Charleroux de Fer.
1986, vous voilà maire. Quelle surprise. Vous n'en revenez toujours pas.
Pourquoi vous ?
Alors pour trouver des réponses à ces questions lancinantes, je suis allé demander au principal intéressé, Robert Vigourou.
Mais en politique, c'est c'est un petit peu le hasard qui m'a amené là. Mais enfin, je faisais quand même depuis longtemps, depuis 1965, j'étais engagé politiquement. Mais surtout, j'avais été élu et donc avec des responsabilités.
Vous endossiez déjà les habits du pouvoir, vous aviez déjà été élu, vous étiez quand même un notable de Marseille.
Oui, j'étais pas monsieur l'inconnu, on a remarqué que Gaston Defer a été monsieur X à une époque, mais moi j'étais pas monsieur Z, et en plus j'ai gagné des élections très difficiles, bon, peut-être parce que ma profession médicale a joué, parce que c'était quelqu'un d'autre, c'était un goût du changement, comme une alternance peut-être, je ne sais pas trop, mais effectivement je n'ai pas été élu parce qu'on a tiré au sort. Il y a eu des discussions qui se sont faites à ce moment-là, je parle en 86, des discussions qui se sont faites. Et qu'il n'y avait pas qu'une personne, il y en avait plusieurs, et finalement, j'ai été désigné.
C'est qui va être éliminé dans le Saint des Saints. C'est toujours la course au pouvoir. Qui va être calife à la place du calife? Qu'est-ce que c'est que la lutte interne entre Madame de Charleroux, les socialistes, et Pezet est éliminé.
Autre point de vue intéressant autour de la succession à Gaston Defferre, celui du politologue Bruno Étienne, qui était présent à l'enterrement et connaît bien Robert Vigouroux puisqu'il a travaillé avec lui.
Là où effectivement dans le film on le voit nettement, c'est que Defferre, lui, avait un charisme particulier. Bon, puis la mort de Defferre, moi j'y étais, donc il y avait 9 petites jeunes gens de d'ethnies différentes qui portaient le cercueil, avec le chapeau dessus, avec madame derrière, etc. Tous les traîtres et tous les enfants et les fils, bon... C'était une mise en scène absolument extraordinaire, mais il faut remonter un peu plus loin. Ça, elle ne le dit pas dans le film. C'est que Defferre, il rentre mitraillette en main avec sans doute la bande à Guérini, qui avait battu la bande à Sabiani. C'est loin tout ça. Hein, il rentre dans le petit Marseillais, mitraillette en main. Il prend le pouvoir avec la légitimité de la résistance, de la fin de la résistance, etc. Donc, et il va construire toute sa personnalité autour de ce charisme exceptionnel. Il a été ministre de la France d'Outre-mer, d'ailleurs, où il a fait des choses assez intéressantes, puis ministre de la décentralisation. Donc, il est évident qu'au moment de sa mort, il a un tel statut charismatique qu'il va se passer quelque chose. Et là, le film le montre bien. Personne n'attend Vigouroux. Personne ne sait qui c'est. Quand on voit le... Bon, en plus, je suis même plutôt copain, ami avec Madame Edmond. Mais quand on voit les gens qui sont derrière lui, c'est extraordinaire. Derrière le cercueil et derrière elle, c'est extraordinaire. Il y a toute la filiation légitime et illégitime. Et c'est elle qui va trancher au cimetière. Au cimetière. Si on prend avec aujourd'hui, ben Mitterrand, c'est absolument la même chose. Jospin, le fils traître, je veux dire, on est dans le même scénario. Alors, pourquoi Sarkozy ? Bon, Sarkozy, lui, il a trahi tout le monde. C'est intéressant. Sarkozy, son père charismatique, vous savez qui c'était ? C'était un Corse. Ça, c'est intéressant. Hein, dont il prend la suite à Neuilly au moment où il meurt. Eh oui ! Comme son fils est en train de se faire candidat à 22 ans, hein, il avait à peu près le même âge. Et puis après, il est dans le clan Balladur. Balladur se présente comme Chirac. Là, il y a trahison sur trahison. C'est Chirac qui l'emporte. Mais Chirac, est-ce que c'était le fils de Pompidou ? Est-ce que c'était le fils du général de Gaulle ? On est tous dans le même sillon. Avec la cour, les proches de la cour qui sont là, les tractations du palais. Aujourd'hui, c'est intéressant puisque la presse étrangère ne parle de Sarkozy que comme moufti du harem. Donc, on n'a pas changé de stratégie. Alors, Vigouroux, dans le film, ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'il est l'outsider que personne n'attendait. Vigouroux, il était atone. Il n'avait pas de couleur, il n'avait rien. C'est pour ça qu'il a été élu. Vigouroux, il n'avait aucun charisme, aucune autorité. Et c'est pour ça que ça a bien géré, parce que ça, c'est un autre problème qu'on n'a pas le temps d'aborder. Aujourd'hui, quel est l'État légitime, légal, démocratique, ayant du pouvoir, qui peut lutter contre les OPA des fonds de pension sur une entreprise qui va être délocalisée ? Personne. Aujourd'hui, nous on a un mot savant pour dire ça, la pleistocratie, aujourd'hui il n'y a plus de pouvoir politique dans la quasi-totalité des États européens. Voilà, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, Marseille doit devenir deux choses, porte-container et bateau de luxe, point final. Vous voyez, donc la volonté, c'est une chose, c'est bon pour l'annonce. Personne n'applique les programmes qui sont décidés. Alors, pour reprendre le cas de Vigouroux, personne ne savait ce que ce type allait faire. Ça n'a eu aucune conséquence sur la vie marseillaise. Donc... Je trouve que le film est intéressant, mais pour moi, il ne va pas assez loin sur le problème du fait que le sacré est quelque chose d'interdit. Alors, la question, c'est est-ce que le pouvoir doit être sacré ? Sacré, ça veut dire séparé et interdit. C'est ça qu'elle a voulu montrer dans le film, la séparation. Sauf que là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est que le peuple veut que le pouvoir soit séparé. Et je ne dis pas rien si le peuple est aliéné et abruti, c'est un autre problème. Hein. Moi, je suis pour la sacralisation du vote. Je vous raconte pourquoi le vote est un rituel. Vous vous habillez comme si vous alliez à la messe. Vous allez à l'école. primaire, là où on vous a inculqué les valeurs centrales de cohésion de l'école, c'est Darcos qui remet ça sur le tapis. Et puis, vous rentrez dans une salle où il y a une urne, où il y a quelque chose qui vous cache. Vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe. Et puis, le peuple abandonne sa souveraineté dans un vagin ouvert, c'est-à-dire une fente et une matrice qui ensuite va faire que vous êtes délivré de votre souveraineté qui est transmise au souverain. C'est extraordinaire. Quand la dernière limite de la désacralisation du pouvoir, ça va être ça. Je vais voter sur le web, chez moi, tranquille. Alors que, qu'est-ce qui reste de la sacralisation du pouvoir? Justement, cette distance qui fait que le peuple souverain, dans l'État-nation, abandonne sa souveraineté par un acte rituel qui, en plus, est un acte sexuel.
...1986. Vous voilà maire. Quelle surprise.
Pourquoi vous? Vous, vous étiez inconnu, donc vous êtes devenu maire.
Inconnu de qui? De tout le monde? C'est pas la même chose. Il n'était pas inconnu. En tout cas, dans les milieux hospitaliers, il était connu. Je prends un exemple aixois, parce que l'analogie est intéressante. Pourquoi Picheral a été surprenant, élu, outsider, élu à son premier mandat? Vous savez ce qu'il faisait, Picheral? Il était médecin des associations sportives. Donc, il avait une base sociale que personne n'avait. Mais personne ne le connaissait. Vous voyez? Donc, connu, inconnu, méconnu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Et alors pour Vigourou?
Eh bien, il était connu de certains milieux.
Lesquels?
Eh bien, essentiellement, Marseille, c'est compliqué, vous savez. Pour l'actuel, les deux actuels candidats, Guérini et décidément, j'oublie toujours le nom du maire de Marseille.
Gaudin.
On sait comment ça se passe. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que chacun a sa disposition 1500 places gratuites pour les matchs de l'OM à chaque match? Bon, je dis ça, il y a d'autres gens. Bon, qui a un volet de poste volant? Je veux dire, les couleurs d'affiches, on en fait quoi? Ça, c'est la notoriété par en bas. C'est-à-dire clientélisme, tribalisme, népotisme, ce qu'avec Peraldi, on appelle la razzia comme mode de répartition des ressources rares. Après, vous avez les allocations symboliques. Ça ne touche pas les mêmes milieux. Ce n'est pas du tout la même chose. Et là, vous regardez dans le film, qu'est-ce qu'attendent les gens qui sont derrière Madame Edmond? Ils n'attendent pas un emploi d'éboueur. Ils attendent d'être dans le sein des saints du pouvoir, qui pour moi est un pseudo-pouvoir, mais ça ne fait rien. Ça veut dire, là, c'est la gratification de l'ego. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on te tacle? San Marco, il passe chez... il sort du PS, parce que le PS coupe toutes les têtes. Hein, pour ça que Pesé est parti à Aix. San Marco part notre maire de Marseille. Attends, c'est parce qu'ils ont un ego gros comme ça. Quand tu prends trois coups de pied au cul, tu changes de métier. Bon, pourquoi? Et les professionnels? Ben, c'est ça que je veux dire. Par contre, il y a des structures de professionnels. C'est quoi? Les apparatchiks de parti, les chefs de... À Marseille, par exemple, il y a quelque chose qui est vachement original et qui est très important. Vous avez vu que les listes, ils ont 300 candidats. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a les maires de quartier, maires d'arrondissement. Mais moi, je connais des gens d'une médiocrité insigne qui ne débandent pas d'être maire d'arrondissement. Or, qu'est-ce que c'est un maire d'arrondissement? C'est une courroie de transmission. Mais dans la photo, il est en haut. Il faut les voir dans les photos comment ils sont. Vous voyez? Donc, c'est très bien le titre. Il y a des professionnels par rapport à Toto. On est bien d'accord.
À Toto? Polo?
Non, à Polo, oui, c'est pareil. Ouais.
On poursuit cette émission autour du film Polo et les professionnels. Et justement, j'ai demandé à Pierre-Carl et Suzelle Roche si Robert Vigouroux était ou est devenu un professionnel de la politique.
Je je pense qu'il n'y a pas à se forcer, je pense que c'est une nature profonde.
Mais qu'est-ce qu'on entend par politique? Ceux qui en ont fait une profession disent de vous que vous n'êtes pas un homme politique. Pourtant, comme ça, vous n'avez pas l'air bien différent.
Devenir un gris. One man. l'été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi.
On retrouve Pierre Carle, lui-même documentariste, qui a réalisé des films, notamment pour l'émission Striptease, sur la politique. Alors Pierre Carle compare la figure de Robert Vigouroux à d'autres hommes politiques qu'il a côtoyés.
C'est une figure universelle, c'est celui qui. C'est un peu un imposteur, je pense. Un imposteur, beaucoup d'hommes de pouvoir sont un imposteur. Qui n'a pas forcément les qualités pour être là, parce qu'il n'y a pas plus de qualités qu'un éboueur, pour la part de Marseille, du monde. Donc à ce moment-là, il devient. Il est Marseille. Il n'a pas été formé comme un éboueur de Marseille, il est formé à l'administration, la troisième ville de France, à Marseille. C'est un chirurgien. Certes, la politique, certes, il était produit de faire pour lui, mais c'est parce qu'il était produit de faire qu'il y a pour autant les qualités immédiates pour être administrateur, être bon. Pourquoi c'est un imposteur, lui, comme la plupart des hommes politiques le sont. Mais finalement, à force de donner l'impression qu'il n'en soit pas un imposteur, ils finissent par établir le pouvoir et la légitimité qu'il peut. En tout cas, il faut combler ce vide. Il ne faut pas qu'il y ait vide, qu'il y ait plus important que pas de vide. On peut combler l'activité, la présence, le sphinx. Et donc, du cas, c'est, il ne faut pas qu'il y ait vide. Il faut occuper le terrain. Il faut absolument occuper le terrain. Personne ne peut l'occuper. Mais dans les cas, il faut que l'on puisse consommer. Il faut aussi, ça c'est l'intermédiaire de l'Église, parce qu'il faut qu'on s'accroche à l'Église. Il faut qu'on ne pas avoir mis là. C'est l'essentiel, c'est aller mis là pour occuper le terrain, le temps qui règle en différence. Et c'est un peu plus évident. Et lui a pris une couleur, effectivement, c'est une couleur de la critique. Il a voulu ensuite se retirer de ce livre.
Allons voir ce qu'en pense Robert Vigouroux. Tout homme politique, dès lors qu'il accède à des responsabilités, donc à un certain pouvoir, tout homme politique ne prend-il pas goût à ce pouvoir ?
Oh, vous savez, le pouvoir qu'on a, c'est tous les jours. Et si on vous sert une tarte tatin tous les jours, au bout d'un moment, ça vous attire plus tellement. Alors, c'est très vaste. Ce que peut faire le maire, il le fait pas toujours, mais quand il veut le faire, c'est excessivement diversifié, parce que il y a un petit peu de tout. C'est un territoire tellement vaste qu'on ne peut pas s'ennuyer.
Donc on y prend goût un peu.
Mais on y prend goût, heureusement, parce que si on n'y prend pas goût, il faut mieux quitter son poste. Hein.
Est-ce que vous considérez que vous étiez un professionnel de la politique ?
Non, je n'étais pas un professionnel de la politique, parce que j'ai quand même toujours eu ma vie personnelle, qui était courte, en durée, chaque semaine, mais qui existait. Et qui permettait de ne pas être complètement obnubilé par la politique. C'est important, ça. Bon, par exemple, pendant que j'étais à la mairie, j'ai écrit ce livre et, parmi les autres, mais j'ai écrit aussi des nouvelles et même des poèmes, parce que, mon Dieu, ça me changeait un peu les idées.
Dans votre livre, vous évoquez la scène sur laquelle jouent les hommes politiques un peu comme des acteurs. Dans le film, on vous voit un peu, enfin, on vous voit beaucoup, même sur cette scène. Comment vous avez vécu le fait de devoir vous mettre en scène ?
Bien, bien. Je dis la vérité. Mettre sur une scène, devenir un acteur, c'est bien sûr, c'est séduisant. J'ai essayé personnellement de toujours parler pour dire quelque chose. Alors qu'en politique, généralement, on parle beaucoup pour ne rien dire. Ben, on est heureux qu'il y ait pas mal de personnes qui écoutent. Et puis, bon, les applaudissements, ça a toujours fait plaisir à tout le monde. Et je suis monsieur tout le monde.
On retrouve Robert Vigouroux en train de lire les aventures de son personnage, Polo.
Je m'aperçus brutalement de la totale disparition de l'index de ma main droite. Sans aucune cicatrice à la base. Comme si j'en avais jamais eu. Je remis ma tête sous l'eau, rien à faire, le doigt manquait. Je cherchais dans mon lit, mes draps, sous mon oreiller, puis sur le sol, en vain. J'avais oublié le tiroir d'une petite table dans ma chambre où je rangeais mes affaires très personnelles. À côté de ma montre en or, avec son bracelet en or, et de ma chevalière en or, gravée de mes initiales, je le retrouvais enfin. Il était chaud et paraissait en bonne santé, sans cicatrices non plus, vivant apparemment très bien son nouveau destin. Pour lui, c'était comme si je n'existais plus, un doigt ingrat que j'avais si longtemps nourri et respecté. Je m'assis pour comprendre, regardant tantôt ma main, peut-être son doigt, tantôt mon doigt séparé de ma main. J'essayais de le remettre en place. Sans aucun doute, il était mien, mais définitivement isolé de moi. Le constat dépassait mon entendement. Je ne rêvais pas. Le cauchemar était réalité.
Un homme politique, ça sert des mains. Hein, c'est ce qu'on appelle un bain de foule, c'est voir des gens, leur dire bonjour, et voilà, ça va bien, ah, merci, et puis ça va pas plus loin, et puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui vous met des enveloppes dans la poche, pas de l'argent, hein, mais des enveloppes pour demander un logement, pour demander un emploi. C'est, le contact n'existe guère. Pendant la période des élections, il existe plus. Mais si on veut un contact, il faut l'avoir avec les associations. Bien sûr, j'ai fait comme les autres. Bien sûr, je ne pouvais pas parler, je vous dis, sauf aux associations, parce que c'est impossible.
Parler, comment ça ?
Parler dans le sens courant. Parler à quelqu'un pour qu'il puisse vous répondre. C'est un échange à ce moment-là. Ça n'est pas simplement un mot au passage. C'est un échange d'idées, un échange d'opinions, un échange de conceptions, de tout.
Et vous n'aimiez pas les bains de foule, alors ?
Oh, les bains de foule, si, agréable comme ça, ça fait plaisir. Mais.
Janvier 1989, 3 mois avant les élections municipales, reflux. Les sondages vous positionnent en tête, vous faites de l'ombre au candidat officiel. À la demande de la Fédération des Bouches-du-Rhône, vous voilà donc exclu du Parti Socialiste. À la fois candidat du président, mais plus candidat du parti. À la fois favori et banni. Une situation favorable au dédoublement ? Vous ne répondez pas ?
Je venais de perdre un de mes deux soutiens. J'avais de la ressource et su faire front sur un seul pied, en soignant l'autre dans son abri. Chaque soir, je regardais mon moignon et me creusais des méninges. Pourquoi ce truc tombait sur moi ? Une punition, d'accord, je n'étais pas parfait, mais j'en connaissais d'autres, et des pires qui couraient sur leurs deux jambes. Il m'arrivait d'insulter ce pied qui m'avait quitté sans raison, ou d'aller allumer en cachette un cierge à Sainte-Réparade dans une église.
Les 8 secteurs, personne n'y pensait. Les 8 secteurs, on les avance.
« 19 mars 1989, flux. Vous avez conquis les 8 secteurs de Marseille, c'est unique. Dans la presse, on ne comprend pas. 15 janvier 1990, reflux. Moins d'un an après votre élection, c'est arrivé sans prévenir, un assassinat. De quoi rappeler une autre époque de la ville et des pratiques anciennes.
Mais voilà, c'est un de vos maires d'arrondissement qui a été tué, le maire du 7e secteur de Marseille, élu sur votre liste, le docteur Péchard.
Quelques mois après le scandale, on a commencé à vous oublier. Pour vous aussi, certainement, quelque chose d'irrémédiable s'était produit. Quelque chose vous échappait. On appelle ça perdre pied.
Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est à ce moment-là de votre histoire que vous avez commencé à vous cacher pour écrire. Et vous avez inventé Polo.
Je me sentis un peu seul et me confiai un soir à mon doigt et à mon pied, posé sur une table.
C'était la fin des années 80, un temps de crise masqué sous des paillettes.
Adieu les paillettes, reste la crise.
Votre souci était plutôt du côté des comptes, un bon gestionnaire apparemment, un bon comptable, comme Polo.
L'argent. Tout le monde en cherchait, tout le monde en cherche encore, toujours plus.
Suzelle Roche. Voici encore un extrait, cette fois plutôt de la fin du film Polo et les professionnels, et donc à la fin du mandat de Robert Vigouroux.
À cette époque, les jours se suivaient, se ressemblaient tous. Ils ne se modifiaient que de période en période. Je peux les classer de ma vie. Je plains les envieux qui ne savent pas être heureux. Ce que d'autres désiraient, je l'avais possédé, acquis et perdu par morceaux. Les bouts de moi détachés de mon corps, je les conserve religieusement, car je n'ai pas de doute, je suis un protégé du ciel. Quand je réfléchis au nombre d'embûches que j'ai évitées, Je suis persuadé que je n'ai pas pu le faire seul. Un jour, j'irai brûler un cierge, je ne sais pas encore à qui.
Christian Poitevin. Et alors, on le sent fragilisé au fil du film, Robert Vigouroux, esselé. Comment vous avez perçu ça, vous ?
Ben, il s'est esselé parce qu'il y a deux raisons à laquelle il s'est esselé. Bon, il s'est esselé d'abord parce qu'il ne veut pas être professionnel de la politique, c'est tout à sa gloire et tout à son honneur. La deuxième, c'est qu'il a cru à un moment donné, pour des raisons que moi je ne connais pas, qu'il allait être très habile à la fin de son deuxième mandat, dont celui qui terminait en juin 1995, de voter Balladur. Or, ce qu'il avait ramassé, et quand je dis ramassé, c'est dans le sens le plus positif du terme, ce qu'il avait rassemblé autour de lui, c'était des gens de tous les horizons, de la gauche organisée comme le Parti Socialiste ou le Parti Communiste, qui sont devenus des exclus ou des dissidents, d'une gauche de société civile, genre ce qui tourne autour de Rocasera, qui est devenu plus ou moins le modèle maintenant, et de la gauche comme la mienne, qui était une gauche inorganisée, de tendance libertaire, etc., etc. Voilà, donc il rassemble tous ces gens, et au bout de 6 ans, il se lève un matin, et il dit « on va voter Balladur ». Bon, il est bien clair que où les gens s'en vont, ça a été mon cas, j'ai démissionné en février 1995, où les gens ne comprennent pas, mais ils restent parce qu'ils restent pour des raisons inqualifiables, en tout cas que je n'ai pas envie de qualifier parce que j'aime la plupart de ces gens, mais ils restent jusqu'au bout. Mais à partir de ça, ils sont plus dans le coup de Robert Vigouroux. Puis ils se sont rassemblés sur une idée d'une gauche libertaire et pas libérale, d'une gauche ouverte, d'une gauche intelligente, d'une gauche non politicienne, justement. Et ils se retrouvent avec quelqu'un qui leur dit « il faut voter Balladur », alors que la gauche n'avait pas encore présenté un candidat, etc. Donc ils se sont retrouvés un peu seuls à ce moment-là.
C'est seulement quelques jours avant les élections municipales de 1995 que vous avez annoncé votre retrait. Vous avez arrêté votre carrière politique.
À la fin du film, donc cette fameuse voix off dit en s'adressant à vous,
vous vous êtes réconcilié avec vous-même.
La vie pouvait recommencer, enfin.
Enfin.
C'était le cas ?
Non, c'est le principe de la vie en morceaux, justement. C'est de dire qu'il y a des, pour tout le monde, des morceaux de vie qui sont, il y a un joint entre les deux, mais qui sont très, très différents, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans le gain, que ce soit dans le pouvoir, qu'importe. Bon, vous savez, Polo, c'est un petit truand. Bon, cette vie en morceaux. J'ai fait de la peinture avant, je me suis arrêté quand je suis devenu maire, parce que il fallait bien que s'arrêter de quelque chose. Mais on évolue et on a envie de faire autre chose. Et on fait autre chose parce qu'on en a eu envie. Donc, Polo, c'est un... J'ai trouvé un nouveau morceau de vie. C'est pas pareil, j'ai pas retrouvé ma vie, j'ai retrouvé un autre morceau. Parce que ça avait rien à voir avec la neurochirurgie. Et j'ai voulu une vie différente. Bon, une vie familiale, d'une part, et d'autre part... De faire un petit peu, j'en avais toujours eu envie d'écrire, de trouver, de pouvoir continuer à voyager bien sûr, mais d'une autre façon, non pas officielle où on voit rien du tout, mais pour moi, et d'être son maître dans l'utilisation de son temps.
Suzelle Roche, ça a été difficile de convaincre Robert Vigouroux pour qu'il lise ces textes de Polo ? Thank you.
Des flux, des reflux, de quoi donner le mal de mer. Et dans ces eaux troubles, votre soutien à vous, c'était l'homme de l'Élysée, celui qui s'est louvoyé, un soutien de poids, mais très discret.
Pour vous aider à manœuvrer, il vous envoie en cachette ses conseillers en communication. De quoi se poser au-dessus des autres, en silence, loin du brouhaha. Une force tranquille, quoi. Version locale. Vous êtes devenu une image qui en rappelle une autre.
Thank you. passage, je suis revenu. Quand je lui dis, il évoque ce que lui appelle l'absolu-démocratie. Pour le plus grand de l'absolu-démocratie, c'est d'abord Aristote, ça c'est un ça dit qui est citoyen. Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. C'est pour ça que je pense surtout que la femme, c'est un citoyen, c'est quelqu'un qui est capable d'être gouverné. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Y a-t-il carrément des citoyens en France en ce moment ? Pourquoi ne serait-il pas capable de gouverner ? Parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Elle vise à convaincre qu'il y a des experts auxquels il faut confier l'affaire. Il y a donc une contre-indication politique. Alors que les gens vont s'habituer à dire c'est tout sur toute responsabilité et à prendre des initiatives, ils s'habituent à suivre des options en tant que représentants ou à l'intérieur. Et quand les gens sont loin d'être tués, le résultat, c'est qu'ils y croient de moins en moins et qu'ils deviennent cyniques dans une sorte d'apathie politique. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est le rationalisme ou l'apathie politique. Mais je veux dire, enfin, dès qu'on s'en fout, on va se dire, il se met à l'intérieur, c'est pas la peine, c'est pas la peine d'intérieur, mais c'est pas la peine.
C'était Suzelle Roche, réalisatrice du documentaire Polo et les professionnels. Sont aussi intervenus dans cette émission Robert Vigourou, Pierre Carle, Christian Poitevin et Bruno Etienne. Le film Polo et les professionnels sera projeté mardi 11 mars à 20h au Dakiling. Prochain rendez-vous sur la grenouille autour des élections municipales, c'est samedi à 18h pour une endoscopie de l'électorat marseillais. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions autour des municipales sur notre site www.grenouille888.org.
Les municipales 2008. La mairie, voilà.